Sainteté et Théologie, Lumière de l'expérience spirituelle des 6e et 7e demeures.
Merci. Voilà, donc j'espère que vous avez encore un peu de force à la fin de cette semaine. En attendant qu'on distribue les dernières feuilles, je crois qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les saints qui nous rassemblent à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis rendre grâce à Dieu pour celles et ceux qui nous ont permis de vivre ce bon moment de travail, de prière et d'échange. Alors ma présentation ce matin est centrée sur le cœur du chef-d'œuvre de Thérèse d'Avila. S'il y a un livre qu'il faut avoir lu, c'est vraiment bien sûr celui-là, c'est son chef-d'œuvre, le Livre des Demeures. Alors je le ferai précédé d'une assez longue mise en perspective dans l'histoire de la théologie en lien avec la mystique, la spiritualité. Et puis je le prolongerai par quelques ouvertures autour de quelques thèmes actuels que la philosophie nous aide à discerner. Alors, vous voyez que je vous ai mis quelques extraits au début d'un article de Balthasar, Hans-Urs von Balthasar, « Théologie et sainteté », un texte célèbre qu'il a écrit en 1948, qui a été réédité par Parole et Silence. Alors ce texte est intéressant, on peut le prendre avec un peu de recul critique, bien sûr, il est daté, et puis c'est un texte d'un théologien, d'un grand théologien du XXe siècle. Mais il me semble qu'il est intéressant parce qu'il pose des bonnes questions sur la théologie et son rapport à la vie spirituelle, et puis finalement aussi sur ce qu'on appelle la théologie de la vie spirituelle, l'enseignement concernant la vie spirituelle. Il faut dire que ce thème traverse toute l'œuvre de Balthasar. Il a dit en recevant un prix, Paul VI, il disait « J'insiste sur l'indivisibilité entre théologie et spiritualité, leur division étant le pire désastre survenu dans l'histoire de l'Église. » Donc c'était vraiment quelque chose qu'il a habité tout au long de sa carrière. Le point de départ, c'est la première citation, le premier constat historique que des pères de l'Église jusqu'à la haute scolastique, 12e siècle, le plus souvent, les saints sont des théologiens du mystère chrétien et les théologiens sont des saints. Et vous voyez, là, il fait référence dans la citation au père de l'Église. Et ce sont des types complets d'humanité chrétienne, bien sûr. Et ce qu'ils enseignent, ils le vivent dans une unité si spontanée, pour ne pas dire si naïve, qu'ils ignorent le dualisme entre dogmatique et spiritualité qui sera après. Et Balthasar fait ce constat un petit peu étonnant qu'après, il y a assez peu de théologiens qui ont été canonisés à partir de l'époque moderne. Alors que au temps de la patristique et de la théologie médiévale, c'était le cas. Et ce fait doit nous inviter à réfléchir. Alors bien sûr, il y a un tournant au XIIIe siècle, quand la théologie devient universitaire, et du coup se déploie comme une connaissance théorique de la vérité, séparée de la relation vivante avec Dieu, qui n'était pas niée, bien sûr, mais qui était distincte de l'enseignement universitaire. Et du coup, la théologie, d'une part, prend la figure d'une rationalité, et d'autre part, la spiritualité, quand elle est encore enseignée, devient une science de la vie chrétienne, comme on le voit notamment dans la Devotio Moderna. Et c'est la deuxième citation que vous avez sous les yeux. Alors que dans les périodes antérieures, il y avait une circularité, dit Balthasar, entre le subjectif mystique et l'aspect plus objectif et dogmatique, les deux circulaient l'un dans l'autre en permanence, eh bien au contraire, à l'époque moderne, il y a une séparation Balthasar, il appelle ça le fardeau de la séparation, qui pèse encore sur nous. Donc, Thérèse d'Avila, selon Balthasar, et Jean de la Croix n'échappe pas à cela, vous avez la citation, les descriptions de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix ont pour objet les états mystiques, Et c'est dans ces états que, à parler sans nuance, on décèle l'objet qui s'y révèle comme objectif. Il y a quelque chose du mystère qui s'exprime, mais à l'intérieur des états de la vie spirituelle, des étapes et des états de la vie mystique. Pour la théologie, continue Balthazar, la théologie qu'on enseignait dans les séminaires, dans les universités, ces saints n'existent guère. On en laisse le profit à la spiritualité qui commençait alors à se constituer. Donc, on pourrait un petit peu discuter ce point, d'ailleurs, ici, aujourd'hui. Il me semble qu'il y a eu, depuis 1948, des progrès réalisés dans ce domaine. Et par exemple, le père Lethel, vous voyez, je crois, à juste titre, souligne qu'on trouve chez Jean de la Croix, par exemple, une sorte de vérification expérimentale de la théologie, par exemple, de saint Thomas d'Aquin sur les attributs de Dieu et sur le dogme trinitaire. De même, dit-il, le père Lethel, toujours, chez Thérèse d'Avila, on trouve une théologie vivante de l'inclusion des hommes dans le Christ qui fait écho à la théologie de la grâce capitale chez saint Thomas d'Aquin, dans la christologie de saint Thomas d'Aquin. Donc, les choses ne sont peut-être pas si coupées que cela si on sait bien lire, par exemple, ici, Thérèse et Jean de la Croix. Mais il reste vrai que chez les saints du Carmel et aussi dans d'autres écoles de spiritualité, l'accent est plus mis sur l'expérience vécue. Alors ici aussi, en discussion un peu avec Balthazar, on pourrait aussi se poser une autre question. Est-ce que finalement cet accent mis sur l'expérience subjective n'est pas aussi le principe d'un approfondissement de la théologie par le biais de l'anthropologie chrétienne? À vrai dire, ce sera un peu la conclusion de ce premier point. Il me semble que si on prend les choses avec un peu de recul, dans tout le déploiement de la tradition de l'Église, on peut se dire que ce moment de l'époque moderne, qui a eu son versant négatif, c'est la séparation, mais a aussi permis des approfondissements, et on l'a vu pendant cette semaine à travers plusieurs exposés, jusque encore même la conclusion tout à l'heure, dans le domaine de la vision chrétienne de l'homme. Il y a une sorte de personnalisme des mystiques, dont peut-être un des grands fruits est d'ailleurs le Concile Vatican II. C'est sûr qu'il y a toute une théologie de la liberté qui s'est développée dans la tradition ignatienne, et chez saint Jean de la Croix, une théologie de la divinisation de la foi. Pensons à la thèse de Jean-Paul II, justement, qui avait fait sa thèse sur la foi chez saint Jean de la Croix, en montrant ce que Jean de la Croix apportait en comparaison, par exemple, avec l'exposé dogmatique ou moral de Thomas d'Aquin. Donc, on pourrait ici discuter cette prise de position en la situant d'une manière peut-être un peu plus large jusqu'à aujourd'hui dans le déploiement ou le désenveloppement de la tradition de l'Église qui désenveloppe le mystère révélé. On pourrait aussi ajouter que ce moment de l'époque moderne a permis des grands développements en théologie morale qui incluent le plein épanouissement de la grâce sous l'action directe du Saint-Esprit. Il reste que quand même, il y a eu un appauvrissement aussi bien de la spiritualité que de la théologie à cause de ce divorce qui a duré, on peut dire, jusqu'au XXe siècle, du XIIIe, XIVe plutôt, au XXe siècle. Alors, le texte de Balthazar se termine par une partie qui s'intitule « Vers une nouvelle unité ». Donc c'était, vous voyez, au lendemain de la guerre, avant le Concile. Il invite la théologie à partir du centre, qui est le Christ et son corps ecclésial, et à reprendre ce qu'il appelait la science des saints, cette théologie du mystère que Le Guillou et Bouillet aussi ont déployée. Et il se faisait, Balthazar, dans ce texte, une très haute idée de la théologie qui est loin d'être seulement un exercice scolaire, mais qui est située à l'intérieur du dialogue entre le Christ et son Église, sous l'action de l'Esprit-Saint. Et c'est ici qu'il y a le fameux texte, souvent cité plus ou moins, à la fin de cet article, et je vous en ai mis un petit extrait, la théologie était, aussi longtemps qu'elle fut une théologie des saints, une théologie priante, agenouillée dans l'adoration. Donc, parce que la théologie se situe à l'intérieur du dialogue entre le Christ et son Église sous l'action de l'Esprit-Saint, d'ailleurs, ici, il y a la présence mariale qui est très importante, elle doit se faire, elle est invitée à se faire à nouveau dans l'attitude de l'adoration. C'est pourquoi son apport à la prière, sa fécondité pour la prière, sa capacité à la susciter ont été incommensurables. Et alors il continue, à un moment donné, d'une manière un petit peu polémique, alors c'est des images, hein, il ne faut pas trop durcir, on est passé de la théologie à genoux à la théologie assise. Par là s'introduisait aussi la déchirure que nous avons décrite au début. D'un côté la théologie scientifique, et de l'autre côté, ce qu'il appelle une théologie édifiante, c'est-à-dire une spiritualité qui se limite à des exhortations pieuses, si vous voulez, et morales. Et morale. Donc voilà le divorce qu'il s'agit de surmonter. Alors ici, c'est mon deuxième point, une question demeure. La prise en compte de l'expérience des saints, alors surtout s'ils sont des docteurs de l'Église, l'expérience des saints en tant que telle, en tant qu'expérience subjective, peut-elle contribuer à ce renouveau de la théologie? Pour Balthazar, le renouveau de la théologie doit se faire à partir de la théologie patristique et d'une vision intégrative de la théologie dogmatique, finalement. Mais moi, je poserai la question, est-ce que la prise en compte de la vie spirituelle, de l'expérience spirituelle des saints, surtout ceux qui ont été déclarés docteurs de l'Église, ne peut-elle pas aussi contribuer à ce renouveau de la théologie que Balthazar appelait de ses vœux, et qui est maintenant, on peut le dire, largement réalisée. Ou pour poser la question autrement, comment l'expérience spirituelle, qui est par nature subjective, et il faut ajouter aussi particulière, dans une tradition, à l'intérieur de la grande tradition de l'Église, comment cette expérience subjective et particulière peut, avec d'autres, contribuer à l'effort théologique dans l'Église aujourd'hui? Et ici, je m'appuierai sur Joseph Ratzinger dans un tout petit extrait, mais c'est dans une partie très intéressante des principes de la théologie catholique qui est consacrée à ce qu'il appelle la voie de la théologie aujourd'hui. Et plus précisément, à l'intérieur de ce chapitre, une partie consacrée à ce qu'il appelle, je cite, « le terrain anthropologique de la théologie ». Ratzinger souligne ici que nous sommes aujourd'hui, c'était la fin du XXe siècle, mais ça reste vrai, dans une situation de perte de mémoire, de rupture dans la transmission de la foi. Et, je le cite, il est urgent dans ce contexte d'ouvrir les portes qui permettent d'entrer dans ce lieu d'expérience qu'est l'Église. Et pas seulement intellectuellement, mais existentiellement aussi, de manière totale. Et ici, pour entrer dans ce lieu d'expérience qu'est l'Église, et vous savez, dans la théologie de Ratzinger, l'Église, c'est le sujet de la tradition vivante, le sujet qui s'identifie à la tradition vivante et qui permet justement, à travers le temps et l'espace, de se relier au mystère du Christ et de Dieu, un et trine. Alors, pour Joseph Ratzinger, ici, il y a bien sûr la célébration liturgique qui a sa place, la vie communautaire, la découverte et la redécouverte de l'histoire de l'Église, de l'histoire de la théologie, de la grande tradition, mais aussi les saints. Et je vous ai mis cette très belle citation ici, de Joseph Ratzinger, « Les saints, en tant qu'ils sont les figures vivantes d'une foi expérimentée et confirmée, d'un accès à la transcendance expérimentée et éprouvée, sont eux-mêmes, alors c'est là la fin, je trouvais vraiment intéressante, sont eux-mêmes, pour ainsi dire, des espaces de vie dans lesquels on peut pénétrer. » Et il me semble que, vous voyez, tout ce qu'on a essayé de travailler pendant cette semaine se trouve éclairé, si on peut dire, d'une manière fondamentale, d'un point de vue de théologie fondamentale, par cette citation de Joseph Ratzinger. Si nous avons fait l'effort pendant 5 jours de de lire Thérèse d'Avila, de la scruter, de connaître sa vie, de lire ses textes, qui sont quelquefois pas tout à fait simples à lire pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être parce que, justement, il valait la peine d'entrer dans cet espace de vie que Thérèse nous ouvre, et à travers cet espace singulier, entrer dans l'expérience chrétienne, qui, elle, est universelle. Donc, il y a, vous voyez, un jeu du singulier à l'universel, du subjectif à l'objectif, en situant l'expérience spirituelle de tel ou tel grand saint reconnu et accrédité, confirmé par l'Église, à l'intérieur de la tradition de l'Église. Et ceci est confirmé par un paragraphe du numéro 8 de Dei Verbum du Concile Vatican II, qu'il vaut la peine de lire ici. Ce texte nous permet de voir comment l'expérience vécue des mystiques est une source pour la théologie dans le déploiement de la tradition de l'Église. Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais c'en est une. Donc voici ce que dit le Concile. « Cette tradition qui vient des apôtres se poursuit dans l'Église sous l'action du Saint-Esprit. En effet, la perception des choses, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît. » Donc c'est le thème du développement de la tradition. Il y a un accroissement, une croissance. Soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, ici on fait référence à Marie qui méditait dans son cœur, soit par l'intelligence intérieure des choses spirituelles dont ils font l'expérience. Je vous ai mis le latin. C'est bien ici de l'expérience spirituelle dont il s'agit. Et dans la genèse de ce texte, ça a donné lieu à des débats parce que certains pères du Concile craignaient qu'on en prête le flanc au modernisme qui, justement, voulait mettre l'expérience spirituelle au-dessus de la foi de l'Église. Mais ici, elle est intégrée dans le développement de la tradition. Soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de vérité. Donc, vous voyez, l'expérience spirituelle est intégrée ici dans le déploiement de la tradition et donc dans le travail de la théologie en tant qu'elle est un des éléments qui contribue à cette croissance de la tradition, de l'explicitation du dépôt de la foi révélée. Ainsi, l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Donc c'est dans et par le sujet vivant, qui est la tradition de l'Église, que l'expérience mystique peut contribuer à ce désenveloppement de la révélation, à cette croissance dans l'explicitation du dépôt révélé. Et on peut voir ainsi comment l'opposition dont il était fait question avant, entre les modernes et les anciens, entre les pères et les médiévaux et les modernes, peut être surmontée. Balthazar dit d'ailleurs que c'est une tâche pour la théologie d'interpréter l'expérience vécue des saints. Et ici, je voudrais me faire une fois de plus l'écho de la méthodologie que nous a donnée, que nous donne le père Lethel, et qui je crois est ici très précieuse. Il s'agit d'interpréter l'expérience vécue des saints, mais le père Lethel souligne à juste titre, humblement, les saints sont nos maîtres. Ils sont plus grands que nous, et nous avons à nous mettre, d'une certaine manière, à leur écoute. Et puis aussi, un autre point méthodologique qui me semble très important, et que souligne beaucoup le père Lethel, c'est dans une complémentarité toujours ouverte, dans deux directions, d'une part entre les pères, les médiévaux et les modernes, et puis d'autre part, entre les diverses expressions que revêt théologie spéculative, symbolique, mystique et pratique. Et c'est ainsi que la rupture peut être surmontée entre spiritualité et théologie, ce qui est, souligne Balthazar, et je conclue par là, une exigence pour l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, pour qu'elle soit plus crédible. Pourquoi ? Parce que, justement, chez les saints et chez les pères de l'Église et chez les grands saints du Moyen-Âge, Bonaventure, Thomas d'Aquin, etc., il y avait une cohérence entre la praxis, la pratique et l'enseignement. Et c'est pourquoi aussi l'expérience spirituelle des saints, là aussi, peut nous aider. Alors, entrons maintenant dans la lecture de Thérèse d'Avila, mais rassurez-vous, ça va être assez rapide en fait, parce que vous en avez déjà eu beaucoup pendant cette semaine, donc j'ai préféré faire plutôt puisque je conclue le colloque sans le vouloir, quand je conclue cette semaine de travail, faire aussi des approfondissements, donner des pistes de réflexion. Alors, Thérèse d'Avila dit du chemin du château intérieur, c'est un autre bijou, bien supérieur au livre de sa vie, dit-elle, avec des émaux plus délicats et un travail plus fini. C'est la lettre 219, pour ceux qui voudraient la voir. Elle dit dans une autre lettre que ce livre est supérieur à son autobiographie car elle avait, je cite, « plus d'expérience ». Donc il s'agit bien de son expérience, dans la lettre 324. Deux mots du contexte, qui est très important ici, comme toujours pour Thérèse d'Avila, mais ici tout spécialement. C'est un contexte pour Thérèse d'Avila très éprouvant. Thérèse d'Avila, quand elle écrit « Le château intérieur », est dans de grandes épreuves. Le manuscrit de la vie est sous scellé, séquestré par l'Inquisition. Elle a 62 ans. Elle a été elle-même dénoncée à l'Inquisition par une novice qu'elle avait refusée. C'est jamais très agréable. Elle revient d'Andalousie où elle avait beaucoup souffert. Elle avait du mal avec l'Andalousie. Elle est toute contente de se retrouver à nouveau à Tolède et ensuite à Avila, où là elle respire mieux. Alors elle écrit ce livre, je vous ai mis l'extrait, à la demande du père Gratien. Un jour, elle échangeait avec lui de choses spirituelles. Et elle dit, ah ben oui, cela je l'avais bien écrit dans le livre de ma vie qui est à l'Inquisition. Et alors le père Gratien, Jérôme Gratien, lui dit, puisqu'on ne peut pas la voir, faites un mémoire de ceux dont vous vous souviendrez et d'autres choses et écrivez un autre livre. Exposez la doctrine en général sans dire à qui est arrivé ce dont vous parlerez. Donc, le château intérieur se réfère bien à son expérience, même si elle ne l'écrit pas à la première personne. Alors, elle commence à l'écrire le 2 juin 1577 à Tolède, et puis elle doit l'interrompre pour se rendre à Avila. Et là, les circonstances ne sont pas du tout paisibles. Elle a reçu l'ordre de se retirer dans un monastère et de ne plus en sortir sous peine d'excommunication. Elle est élue contre sa volonté prieure de l'Incarnation, l'ancien monastère, alors que là, elle est à Saint-Joseph. Mais le tostado, comme elle dit, c'est-à-dire celui qui est désigné par le chapitre des Carmes pour faire appliquer les décisions du chapitre, excommunie toutes les religieuses qui ont voté pour Thérèse. En plus, elle est épuisée, son docteur lui interdit d'écrire, donc elle doit dicter. Et puis, elle arrive quand même, tant bien que mal, à finir le château intérieur. Elle l'achève le 29 novembre de la même année, donc elle a mis 5-6 mois pour l'écrire avec des interruptions, le 29 novembre 1577. Il faut se souvenir que quelques jours après, au début du mois de décembre, Saint Jean de la Croix est arrêté, emprisonné et emmené secrètement jusqu'à Tolède. Donc un contexte très troublé et de grandes épreuves. Je vous ai proposé, ce n'est qu'une proposition, bien sûr, à critiquer, à discuter, une sorte de plan des sixièmes et des septièmes demeures qui m'est venu en les relisant, en y réfléchissant un petit peu. Donc c'est de moi, donc vous pouvez le jeter, comme dit Thérèse, le jeter à la poubelle si vous voulez. Ça n'a aucune importance, mais ça m'a semblé un peu éclairant. Pourquoi ? Les sixièmes et septièmes demeures comportent 11 chapitres sur les 27 du château intérieur. Donc c'est considérable. Il y a là vraiment un développement. surtout dans les sixièmes demeures. Les septièmes ne comportent que quatre chapitres, donc là c'est plus facile, mais dans les sixièmes demeures donc 11 chapitres les sixièmes demeures, et avec les septièmes, ça en fait 16. Donc presque, ça fait plus de la moitié, si je ne me trompe. 15, pardon, excusez-moi, je ne suis pas très bon en maths. Donc c'est important, il m'a semblé intéressant d'essayer de trouver une structure. Bon, il faudrait mentionner ici les types bibliques, les figures bibliques qui jalonnent ces pages, Jacob avec son échelle, Moïse et le buisson ardent, le cantique des cantiques, Saül avec son destin tragique, la Samaritaine, le fils prodigue, la femme pécheresse et saint Paul, ravi au troisième ciel. Le père Thomas Alvarez souligne aussi tous les éléments autobiographiques de ces pages. Et puis, il faudrait aussi mentionner les textes parallèles d'autres écrits qu'on peut lire en écho, en parallèle avec ces pages. Thérèse d'Avila dit elle-même, au début du chapitre 4 des sixièmes demeures, que l'on peut parler conjointement de ces deux demeures. Il n'y a pas de porte fermée entre l'une et l'autre. C'est pourquoi je vous les ai présentées d'une manière continue. Ce que montre ce schéma, vous voyez, ce n'est pas une structure cartésienne, pas du tout concentrique non plus, mais plutôt une sorte de chemin de progression dans la sanctification ou la justification de l'homme et, concomitamment, dans la connaissance intime du mystère du Christ, on va le voir aussi de l'Église. Donc vous voyez, et j'ai remarqué que les chapitres fonctionnent souvent par deux ou trois ensemble, une sorte d'approfondissement. Et puis, à partir de là, elle part dans un approfondissement, dans un thème, et tout cela converge vers, finalement, le sommet qui est les septièmes demeures. Tout commence avec de grandes épreuves. Alors, je vous ai mis après quelques extraits, je ne vais pas les lire, vous les lirez vous-même, qui illustrent mon propos, ou plutôt qui sont des appuis. Tout commence par les grandes épreuves qui sont décrites notamment au chapitre 1, des sixièmes demeures, grandes souffrances intérieures et extérieures. Mais concomitamment, tout de suite, des grandes faveurs, des grâces qualifiées dont on a eu l'écho tout à l'heure, que Thérèse reçoit. Ce qui pose des problèmes de discernement, et donc Thérèse fait des assez longues réflexions sur ces faveurs, sur les discernements à opérer à leur sujet et sur leurs effets. Et finalement, cela conduit vers un premier aspect dans la connaissance du mystère. Ce sont les chapitres 7, 8, 9. Finalement, tout cela donne à Thérèse et à l'âme le sentiment très fort de son péché, de son indignité, mais du coup la renvoie vers le Christ Sauveur. Et cela s'accompagne aussi d'expériences très intimes d'union au Christ, qu'on appelle la vision intellectuelle dont on nous a parlé à l'instant. Et à partir de là, à nouveau, il y a d'autres manifestations du Christ sur le plan de la connaissance au chapitre 10, le Christ comme vérité, mais aussi comme amour qui va aiguiser le désir au chapitre 11. Donc vous voyez toujours ce qui est vécu conduit à la connaissance, par exemple, du péché et du Christ Sauveur, et de l'homme fait pour la vérité, et aussi l'homme avec son désir de Dieu. Et on arrive ainsi au septième demeure, qui présente l'aboutissement de ce cheminement. Et ici, avec une structure assez simple, là, c'est celle que propose le père Alvarez, la sainteté comme pleine communion, union transformante, dit le père Marie-Eugène, à Dieu un et trine et au Christ Jésus, avec des effets qui font approfondir le mystère de la personne humaine dans sa vie morale, dans sa perfection chrétienne, et dans l'Église, avec l'engagement missionnaire et la vie fraternelle qui apparaissent ici. Et la conclusion générale, Thérèse relativise l'image des demeures en disant « il y a tant de demeures dans chaque demeure », bien sûr, ce n'est pas un schéma strict dans lequel il faut enfermer l'œuvre de Dieu. Et puis, elle termine, c'est très beau, sur une petite digression conclusive, sur la splendeur de l'homme image de Dieu. Et à vrai dire, cette vision de l'homme peut être aussi un fil qui traverse tous ces chapitres, des sixièmes et des septièmes demeures. La grandeur, la beauté de l'homme et aussi sa misère sans Dieu. En plagiant Pascal, qui était un lecteur de Thérèse d'Avila, il ne faut pas l'oublier. Alors vous pourrez vous-même lire les textes, il y a quelques formules très belles que je vous ai mises, par exemple, « Ce grand Dieu veut que nous voyions en lui le roi et en nous notre misère. » On croirait du Pascal, peut-être Pascal s'en est-il inspiré, ce n'est pas du tout impossible. Vous verrez aussi comment déjà, dès les sixièmes demeures, il y a un progrès dans, donc dans la découverte du mystère de la pauvreté de l'homme, du Christ sauveur dans son humanité, de Dieu aussi, mais aussi un désir de servir, hein, un désir de se mettre au service des autres, dans la charité. Une dimension active et pas seulement une dimension de relation avec Dieu. La transformation de l'homme ici ne fait qu'expliciter, vous avez un beau texte là-dessus, ce que dit saint Paul, le texte nous a été lu tout à l'heure, et cela conduit au septième demeure à des œuvres. On peut lire ce petit texte du chapitre 4 des septièmes demeures. Quel oubli de son repos, quel mépris de son honneur, quel éloignement de toute recherche d'estime chez l'âme qu'habite si particulièrement le Seigneur. Comme elle vit beaucoup avec lui, il est juste qu'elle ne pense guère à elle-même. Le thème de l'oubli de soi revient très souvent dans ces pages. Le fruit, vous voyez, de ces faveurs extraordinaires, de cette intimité extraordinaire avec Dieu et avec le Christ, c'est l'oubli de soi. Sa mémoire s'emploie toute à chercher le meilleur moyen de le contenter. Que faire dans ce but et comment lui montrer son amour? Et vous voyez, cela se déploie en action. Tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert ce mariage spirituel. Donner toujours naissance à des œuvres, des œuvres. Alors, cela m'amène à la troisième partie de ma petite présentation. Quelques ouvertures. Bien sûr, il y en aurait bien d'autres, théologiques, pastorales, missionnaires, littéraires aussi. Je signale, pour s'il y en a que ça amuse, le père Alvarez suggère de faire une étude comparée avec Kafka, dont le dernier livre s'intitule inachevé, s'intitule Le Château, et qui a écrit un autre roman qui s'intitule La Métamorphose. Et donc, il y aurait en contrepoint quelque chose d'une comparaison littéraire intéressante à faire. Premier point, la question de la vérité. La question de la vérité est cruciale aujourd'hui, bien sûr, on le sait. Dans le multiculturalisme, la mondialisation qui conduit inévitablement à une forme de relativisme parce qu'il est plus difficile d'être convaincu d'être dans la vérité quand on voit tant d'opinions contradictoires ou contraires. Alors ici, l'affirmation de Thérèse d'Avila est très étonnante. Dieu lui a donné la faveur de connaître tout à coup et de manière surnaturelle, d'une manière qu'on ne peut exprimer, la vérité. C'est le texte que vous avez, je crois, oui c'est ça. Une vérité de cette divine vérité qui m'apparut, resta gravée en moi, sans savoir pourquoi ni comment. Thérèse, dans la vérité, tout d'un coup, il y a là quelque chose, une expérience soudaine, qui est très étonnante et qui peut nous donner à réfléchir. Elle m'infusa un nouveau respect de Dieu, car elle me donna de sa majesté et de son pouvoir une idée inexprimable. Je puis comprendre que c'est une grande chose. Et un peu plus bas, et je compris ce que c'est pour une âme que d'être dans la vérité en face de la vérité même. Il y a là quelque chose de très étonnant, de très intéressant, qui a d'ailleurs frappé, on le sait, ça c'est un extrait de la biographie, de la vie de Thérèse, Edith Stein et d'autres. Donc Thérèse dit que cela ne lui est pas venu, elle dit dans le livre des demeures, au chapitre, elle reprend cela dans les sixièmes demeures au chapitre 10, cela lui a été donné à comprendre tout d'un coup que Dieu est une vérité qui ne peut faillir. Elle ne l'a pas acquis par le travail et la réflexion. Et je vous ai mis en écho un texte de Fides et Ratio, l'encyclique de Jean-Paul II, qui nous rappelle justement comment la sagesse qui est don de l'Esprit-Saint introduit à la connaissance des réalités divines. Et il cite ensuite Thomas d'Aquin lui-même, « La foi, c'est à la fin de la citation, la foi donne son assentiment à la vérité divine considérée en elle-même, tandis que c'est le propre du don de sagesse de juger selon la vérité divine. » Donc on voit ici comment l'expérience de Thérèse peut nous inviter à réfléchir sur un accès à la vérité à l'intérieur de soi, ici dans l'expérience spirituelle sous l'action de l'Esprit-Saint. Mais pour Thérèse, cette connaissance de la vérité n'est pas purement théorique. Elle a pour but, dit-elle, de nous appliquer à beaucoup marcher dans cette vérité. Et ici, c'est un appel à pratiquer la vertu d'humilité. Et vous avez ici la traduction que donne le père Jean-Marie Laurier du chapitre 10 des sixièmes demeures à ce sujet. Un très beau texte que vous pourrez lire. Je cite juste au milieu, « C'est une grande, très grande vérité que de nous-mêmes nous n'avons rien de bon, nous ne sommes que misère et néant. Celui qui ne comprend pas cela est dans le mensonge. » Et donc, Dieu est la vérité suprême et l'humilité, c'est marcher dans la vérité. Alors, il n'y a pas ici un pessimisme, un mépris de soi comme chez Luther, mais il y a la reconnaissance dans la lumière de Dieu et du Christ que l'homme par lui-même est marqué par le péché originel et par ses péchés personnels et qu'il reçoit tout de Dieu. C'est la théologie de la justification du Concile de Trente qui est ici vérifiée par l'expérience de Thérèse. Et c'est pourquoi vous avez ce très beau texte à la fin. Elle préfère tâcher d'oublier et se cacher dans la miséricorde de Dieu, puisqu'il n'y a pas de quoi payer, que sa pitié et sa miséricorde à l'égard des pécheurs y supplient. Donc, la vérité de l'homme renvoie à la miséricorde de Dieu. Deuxième thème en ouverture, le sujet. Bon, Thérèse est née à l'époque moderne, et je le disais, Pascal l'a certainement lu. Descartes, on ne sait pas très bien, ce n'est pas impossible, enfin il n'y fait jamais référence, mais enfin Descartes avait pratiqué les exercices spirituels de Saint Ignace dans son collège de la Flèche, ça on le sait. Donc il n'est pas artificiel d'intégrer dans une réflexion sur le sujet moderne les mystiques. Et c'est ce que fait un philosophe du 21e siècle, Jean-Louis Chrétien, qui est toujours vivant, dans un très beau livre publié l'an dernier, « L'espace intérieur ». Il reprend la question de l'individu, du sujet moderne, en faisant référence bien sûr à Augustin, comme arrière-plan, à d'autres pères de l'Église d'ailleurs, mais surtout parmi les philosophes à Montaigne, Descartes, Kant, Rousseau, et en allant jusqu'à Freud et Heidegger. Et Thérèse d'Avila prend place dans sa réflexion, il lui consacre un chapitre entier. Je vous ai mis quelques extraits où il souligne voilà, comment notre identité moderne est devenue profane. Non pas profanée, mais c'est le même mot, mais profane. Au milieu de la première citation, « Dieu déserte à nos yeux ces demeures intérieures que nous sommes. Il cesse d'être l'habitant ou le visiteur par excellence. » Même si je suis croyant, je suis seul désormais avec moi-même dans la chambre de mon cœur. Voilà qui dit bien notre contexte, notre situation. Et à la fin de la citation, le temple désaffecté devient le royaume de la subjectivité, mais le vide, qui dès lors s'y découvre, révèle encore à sa façon l'ampleur de cet espace intérieur. Et dans le chapitre qu'il dédiait un petit peu avant à Thérèse d'Avila, il souligne comment Thérèse d'Avila découvre une présence. Elle ne la construit pas, elle la découvre, comme pour saint Augustin. Mais les deux dernières citations de Jean-Louis Chrétien me semblent intéressantes parce qu'il dit que Thérèse d'Avila fait cela sans rien renier de la réalité de la vie psychologique. Elle, la description de Thérèse, permet d'articuler l'expérience et de lui trouver une issue, autrement que nos catégories psychopathologiques, mais sans rien ignorer du réel qu'elle saisisse, le réel de la vie psychologique de l'homme. Il y a une très grande psychologie chez Thérèse d'Avila. Vous savez que Julia Kristeva, une spécialiste de l'histoire de la psychanalyse, a encore consacré tout récemment plusieurs gros volumes à Thérèse d'Avila. Et deuxième volet qui me paraît très intéressant chez Jean-Louis Chrétien, c'est qu'il montre comment chez Thérèse d'Avila, la subjectivité ne se construit que dans l'intersubjectivité, dans la communauté, dans la relation aux autres. C'est la dernière citation. Le va-et-vient entre solitude et communauté. C'est une parole venue par les autres qui m'envoie à la solitude. Et cette solitude qui me conduit jusqu'au centre, ou au sommet de mon être, m'y conferme des ressources pour revenir à cette communauté, m'envoie aux autres. Voilà. Et sainte Thérèse, c'était le dernier texte qu'on avait lu à l'instant, voit le fruit de la vie mystique dans le dévouement inlassable qu'elle nous donne pour autrui, et qui est un critère de la vérité de cette expérience d'ailleurs, selon Thérèse. Et puis, dernier point, je n'ai pas pu m'empêcher de faire mention de Bergson, je l'ai intitulé « Technique et mystique », dans les deux sources de la morale et de la religion, Bergson, qui, à l'ère de la puissance de la technoscience, ce n'est pas le mot qu'il utilise, lui il parle encore de l'ère industrielle, mais aujourd'hui on dirait la technoscience, pose le problème de l'humanité qui est mise au défi de chercher comment ne pas être écrasée par le poids du progrès qu'elle a elle-même créé, suscité. Et vous le savez, pour Bergson, l'issue peut être trouvé dans ce qu'il appelle l'appel du héros. Et dans le héros, il y voit le saint et le mystique qui est capable de soulever l'humanité industrielle, technoscientifique. Tels furent Socrate, Jésus-Christ, surtout, et les saints du christianisme. C'est un appel qu'ils font entendre par leur vie même, qui fait passer de la morale de l'obligation sociale à la morale ouverte de l'amour. De la religion statique à une religion plus mystique, qu'il appelle dynamique, qui se caractérise par la joie et l'amour véritable. Et Thérèse d'Avila, on le sait historiquement, Jean Bergson l'avait lu, à travers notamment un auteur qui s'appelle Delacroix, qui l'avait introduit en Sorbonne au tout début du XXe siècle. Pour Bergson, parmi d'autres, il y a aussi Marie de l'Incarnation et même Jeanne d'Arc, Thérèse d'Avila est une figure accomplie de la mystique, non seulement dans sa quête d'absolu, comme aussi chez les Grecs et dans l'hindouisme, par exemple, mais comme génie pratique et service de l'humanité. Et c'est bien cela que Bergson appelle de ses voeux, des mystiques qui soient en même temps des pratiques. Et du coup, pour Jean de la Croix, une Thérèse d'Avila ne conduit pas à nous évader en dehors de ce qu'il appelle la mécanique, ce qu'on appellerait aujourd'hui la technoscience. Mais il peut nous montrer comment on peut soulever de l'intérieur le monde de la technique, dont l'origine est mystique d'ailleurs, dit-il, et dont la destinée, si elle veut être vraiment humaine, doit être inspirée par les mystiques authentiques qui se déploient non seulement dans une quête de Dieu, de l'absolu, mais dans le service des autres, dans le monde très concret. Et c'est pourquoi je vous ai mis simplement une citation. Bon, il y aurait une autre citation aux pages, pour ceux qui voudraient retrouver, 329 jusqu'à 331, où Bergson, justement, montre comment la mécanique exige la mystique. Mais j'ai voulu souligner plutôt comment, à la racine de cet élan, il y a l'amour. Et c'est bien cela, finalement, à quoi conduisent les sixième et septième demeures. C'est un amour qualifié, un amour reçu par des faveurs, dans des faveurs confirmées, dans des faveurs extraordinaires, mais surtout un amour purifié dans les épreuves, dans les grandes souffrances des sixièmes demeures, et un amour qui se déploie au service du prochain, comme le dit Thérèse d'Avila dans les septièmes demeures, et comme elle le reprend, je vous invite à le lire dans un très beau texte du chapitre 7 des Pensées sur l'amour de Dieu. Un amour qui est inséparablement pour Dieu et pour le prochain. Et Bergson disait, voyez, coïncidant avec l'amour de Dieu pour son œuvre, amour qui a tout fait, il, cet amour du mystique, du saint, livrerait à qui saurait l'interroger le secret de la création. Et c'est comme ça qu'il pourrait soulever et ressoulever sans cesse l'humanité, même quand elle est écrasée par exemple, la technoscience. Dernier mot, lire ces pages de Thérèse d'Avila peut nous aider à creuser notre désir de la sainteté, bien sûr, et puis aussi peut nous aider à accompagner d'autres. Et je voudrais terminer en donnant le dernier mot à Thérèse elle-même, dans les sixièmes demeures, au chapitre 4, paragraphe 12. « Car bien que le Seigneur donne ces choses à qui il veut, si nous aimions sa majesté comme elle nous aime, elle nous les donnerait à nous tous. C'est son unique désir, trouver à qui donner. » Amen.